à la main. La deuxième position permet, lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations, c'est ce qui s'appelle l'intéparat. L'intéparat, c'est le fait simplement de s'asseoir sur les talons. وهو أن ينتصب على عقبيه شوف الأذن ذكري donc c'est de s'asseoir sur ses talons العقب sur le talon العقبين العقبان c'est les deux talons donc وصدور قدميه ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وعافني وارزقني le دعاء qui te prononce l'invocation qui te prononce à ce moment-là, c'est-à-dire quand il est assis entre les deux prosternations, que ce soit la première façon, l'ispirat, ou bien de la deuxième façon, l'intiqa'at, il dit « Allahumma gfirni, ô mon Dieu, pardonne-moi, warhamni, et sois clément envers moi, wajburni, jburni, répare toutes mes fautes, répare tout le manque qui vient au manque que je connais, warfa'ni, et élève-moi, ou affini, et évite-moi tous les malheurs, évite-moi tout ce qui me nuit, ou arzoukni, et pourvois-moi en bien. Wa insha'a qala rabbi khirli, rabbi khirli. Le deuxième dua qu'il peut dire, à la place du premier, la deuxième invocation, c'est rabbi khirli, rabbi khirli. Ô Dieu mon Seigneur, pardonne-moi, ô Dieu mon Seigneur, pardonne-moi. Ici, on remarque, il faut signaler qu'il y a un hadith authentique, qui interdit la position qui s'appelle al-iqa'a. La position qui est interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est différente de celle qu'on vient de voir ici, qui s'appelle elle aussi al-iqa'a. La position al-iqa'a qui est interdite, c'est celle qui consiste à s'asseoir sur les talons, tout en mettant les mains sur le sol. Al-iqa'a qui est permis, qui a été accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc de s'asseoir sur les talons et d'avoir les mains sur les jambes posées sur les cuisses. Et donc celle qui est interdite, la différence qu'il y a entre celle qui est interdite et celle qui est permise, c'est la position des mains. Dans l'une, les mains sont sur le sol, sur le tapis, dans l'autre, les mains sont sur les jambes. ويقيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته. La longueur de cette station assise doit être la longueur de la durée de cette station doit être à peu près égale à la durée de cette prosternation. السجدة الثانية la deuxième prosternation. ثم يكبر وجوبا ensuite il dit الله أكبر obligatoirement. C'est une obligation. Et parfois, il lève ses mains, tout en disant Allahu Akbar, c'est-à-dire quand il dit Allahu Akbar, il lève ses mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levé parfois ses mains à ce moment-là. Se prosterne une deuxième fois, et cette prosternation est aussi un pilier, de la même façon que la première prosternation était un pilier. ويصنع فيها ما صنعت في الأولى. Il l'accomplit exactement de la même façon qu'il a accompli la première prosternation. جلسة الاستراحة. استراحة, si on veut, c'est une pause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait de la deuxième prosternation, donc pour se lever, pour passer à la deuxième raka'a, le deuxième cycle, comme on a dit, il y a un cycle répétitif dans chaque prière, la station debout, puis le record, puis ensuite la deuxième station debout, puis ensuite la prosternation, la première prosternation, puis ensuite la station assise entre les deux prosternations, puis la deuxième prosternation. Ceci constitue un cycle, et toute prière, parmi les cinq prières obligatoires, est constituée d'une répétition de ces cycles. Et c'est ce qu'on a dit, être appelé Raka'a. Quand il voulait se lever pour accomplir une deuxième Raka'a, un deuxième cycle, il s'asseyait juste avant. Comme s'il marquait une brève pause, un bref instant de répit. Pour cette raison, nous avons appelé cette position assise, cette brève position assise, nous l'appelons Jalsat al-Istiraha, la position de pause, si on veut. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. Quand il veut se lever, se relever de la deuxième prosternation pour accomplir le deuxième cycle, la deuxième raka, il dit Allahu Akbar et ceci est aussi une obligation. ويرفع يديه أحيانا. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, levait ses mains avec en prononçant Allahu Akbar. ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. Ensuite, il se stabilise en position assise, tout en étant assis sur sa jambe gauche, et il reste ainsi jusqu'à ce que ça pèse, jusqu'à ce que tout le monde revienne à sa place d'origine, reprenne sa respiration d'origine. Raka se fait le deuxième cycle, donc, contient la station debout, le recours et la prosternation. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجل إلى الركعة الثانية وهي ركن. Il se rétablit donc en position debout, il se remet debout, en cédant de ses poings, en les appuyant sur le sol, il se relève donc pour accomplir la deuxième raka. Cette deuxième raka est un pilier de la salat, est un pilier de la prière. ويسمع فيها ما صنع في الأولى. Il l'accomplit de la même façon, exactement de la même façon qu'il a accompli la première, à la différence près qu'il ne doit pas lire le dua donc d'introduction de la prière, le dua qu'on a vu dans l'invocation du départ, car ainsi qu'on l'a précisé, ce dua n'est qu'à prononcer au début de la prière. ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. De la même façon, la longueur de ce cycle doit être plus courte que la longueur du premier cycle. الجلوس للتشهد. À la fin de ce deuxième cycle, à la fin de cette deuxième raka, la personne donc est en position assise puisqu'elle vient de se relever de la dernière prosternation. À ce moment-là, avant de se relever pour accomplir une troisième raka, si la prière comporte trois raka, ou bien avant d'achever la prière en faisant le salut, le salam, au cours d'une prière qui comprend deux raka seulement comme la prière de l'autre, ainsi qu'on a signalé, que doit-il faire? Il doit prononcer le tashahhud, qui est une invocation qu'on va décrire. فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب. Dès qu'il achève le deuxième cycle, la deuxième raka, il s'assoit pour accomplir le tashahhud. Et l'accomplissement de ce tashahhud est une obligation. ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين لكن لا يجوز الإقعاء هنا. La façon de s'asseoir est la première façon décrite. Quand on a parlé de la position assise en ces deux prosternations, le tirage, c'est-à-dire en se tenant assis sur la jambe gauche et le pied droit fait un angle droit avec le sol, tandis que ses doigts sont sur le sol. Quant à la deuxième position, c'est le tirage, c'est-à-dire le fait de s'asseoir sur les talons, il n'est pas permis à ce moment-là, au moment où on va faire le tashahhud. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه. Comment il s'enfile sa main droite? Il la pose bien sûr sur sa jambe et sa main est sur le genou droit, tandis que le coude bien sûr de la main droite se trouve sur la jambe, sur sa cuisse, il ne doit pas s'en écarter. ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. Il allonge, il appose sa main gauche sur sa jambe, sa jambe gauche et sur son genou gauche. ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى في تطويل السنجولة بالسسوار en étant appuyé sur sa main, donc de s'appuyer sur une quelconque main. Plus particulièrement, cette interdiction est plus prononcée lorsque l'appui se fait sur la main gauche. تحريك الأصبع والنظر إليها. À ce moment-là, au moment de tashahhud, on doit bouger le doigt, on doit bouger l'index de la main droite, tandis que le regard de la personne se dirige vers cet index. ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة وتارة يحلق بهما حلقة. Il referme les doigts de sa main droite tout en apposant son pouce sur son majeur parfois, ou bien parfois en formant avec le pouce et le majeur un cercle. Donc, les doigts de sa main sont refermés, donc il ferme son poing, sauf que le majeur est tenu parfois par le pouce, tandis bien sûr que l'index est pointé, et parfois le majeur forme avec le pouce un cercle. ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة. Son index est donc pointé vers la Qibla, vers la direction de la Ka'ba. ويرمي ببصره إليها. Et il jette son regard, il fixe du regard l'index. ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. Et il bouge légèrement cet index du début du tashahhud, donc dès qu'il commence à prononcer la formule du tashahhud, jusqu'à la fin de la prononciation de cette formule. وَلَا يُشِيرُ بِإِصْبَعِ يَدِهِ الْيُسْرَى. Il ne doit pas faire de même avec la main gauche. La main gauche est posée, les doigts étalés, sur la jambe gauche. Donc il n'a pas bougé l'index de sa main gauche. وَيَفْعَلُ هَذَا كُلَّهُ فِي كُلِّ تَشَهُد. Et à chaque fois qu'il arrive au niveau de la position assise où il doit prononcer ce tashahhud, donc à chaque prière, il doit savoir à quel moment il doit faire ce tashahhud, ce qui est simple, puisque on a vu qu'après chaque deux raka'at, il y a un tashahhud. Donc les prières qui comportent deux raka'at seulement, il y aura ce tashahhud qui donc se situe à la fin de la prière. Les prières qui contiennent quatre raka'at, il y aura donc combien de tashahhud? Il y en aura deux à la fin de chaque couplet de raka'at. À chaque fin de deux raka'at, il y a un tashahhud. Si la prière comporte trois raka'at seulement, comme la prière du Maghreb, bien sûr après avoir accompli deux raka'at, il va prononcer le tashahhud. Il lui restera ensuite une seule raka'at. À la fin de sa prière, à la fin de cette raka'at, il prononce le tashahhud. Donc à chaque fois qu'il doit prononcer le tashahhud à ces endroits précis qu'on vient de signaler, il agit de cette façon-là décrite dans ce paragraphe. Qira at-tashahhud wa ad-du'a ba'dahu. La formule du tashahhud, donc l'invocation proprement dite qui doit être prononcée. Wa at-tashahhud wajibun idha nasiyahu sajada sajdatayn sahwan. La prononciation du tashahhud est une obligation. Le fait que ce soit une obligation, on l'a précisé, Cheikh Al-Albani le rappelle ici, Ivana Fiyahu, s'il l'oublie de prononcer le tashahhud, Sajada Sajdatayn Sahwan. Sahwan, c'est la distraction, quand on est distrait, quand on a oublié d'accomplir quoi que ce soit, donc on se prosterne deux fois, ainsi qu'on l'a dit auparavant, pour réparer la faute qu'on a accomplie. وَيَقَرَأُهُ سِرًّا. Le tashahhud ne doit pas être prononcé à haute voix, mais doit être prononcé en silence, mais surtout en bougeant ses lèvres. وَفِيرَتُهُ. La formule du tashahhud est التَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'ai prononcé ce dua en m'arrêtant à chaque expression. Et en arabe, quand on s'arrête au niveau d'un mot, la voyelle de la dernière lettre n'est pas prononcée. C'est pour cela que je n'ai pas prononcé la voyelle de la dernière lettre, car cela pourrait faire croire à certaines personnes que même quand on s'arrête, la voyelle doit être prononcée. Mais ceux qui veulent apprendre à prononcer le dua, l'invocation comme il faut, et qui n'entendent pas la voyelle de ces lettres-là, risquent de mal prononcer les lettres si elles ne s'arrêtent pas au niveau de ces lettres, mais ils les lisent d'un trait par une main. Donc je reprononce le dua, mais en faisant cette fois les liaisons, en n'arrêtant pas aux endroits où je me suis arrêté, en prononçant les voyelles. Donc ceux qui veulent connaître les lettres, les voyelles de ces dernières lettres, ils n'ont qu'à écouter la façon d'être prononcée. Donc, التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bien sûr, quand on s'arrête, on ne va pas prononcer les voyelles de ces dernières lettres, on dira, comme je l'ai prononcé la première fois, mais je le répète pour que ça s'ancre dans l'esprit de ceux qui n'ont pas l'habitude. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Remarquons que l'expression ici utilisée dans ce dua est Assalamu ala al-Nabi. Beaucoup ont dû entendre autour d'eux Assalamu alayka ayyuha al-Nabi. Cette formule est juste, sauf que, comme fait remarquer Omar Cheikh al-Albani, ceci était utilisé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'expression Assalamu alayka ayyuha al-Nabi. Que tu sois salué au prophète, donc en se dirigeant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il était présent, était utilisé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa vie. Après qu'il soit mort, l'expression utilisée est Assalamu ala al-Nabi, c'est l'expression qui est citée ici dans le livre, c'est-à-dire que le prophète soit salué. Et Cheikh Al-Albani dit هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, c'est ceci qui est valable, qui est permis après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. وهو الثابت في تشهد ابن مسعود, c'est ce qui est rapporté dans le témoignage de foi, la formule du témoignage de foi utilisée au cours de la prière par les compagnons ابن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم ومن شاء التفصيل فعليه بكتاب صفة الصلاة صفحة الثانية والأربعين بعد المئة. Et ceux qui veulent plus de détails, qui se réfèrent au livre d'origine. التحيات لله, toutes les expressions qui indiquent le salut sont méritées par Dieu. C'est lui qui les mérite. Absolument, c'est Dieu qui mérite absolument d'être salué et salué de la meilleure façon qui soit. Wa salawat sont toutes les invocations que la personne prononce pour magnifier ou glorifier Dieu. Et seul Dieu mérite ses glorifications et ses louanges et personne d'autre ne les mérite. Wa tayyibat sont les belles paroles qui sont prononcées pour vanter Dieu et qui sont dignes de la majesté de Dieu et qui se différencient des belles paroles qui sont prononcées par ceux qui vantent le roi. Donc ce sont des paroles qui vraiment vantent Dieu ainsi qu'il le mérite. Salam ala al-Nabi. Salam n'est pas un des noms de Dieu. Il veut dire aussi, comme le traduisent certains, salut. Donc, que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, traduit certains. Mais ici, le sens exact est en fait que cette formule indique un appel de la protection de Dieu, un appel, une demande à Dieu pour qu'il soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on disait, quand on dit assalamu ala fulan, que Dieu soit avec toi. C'est une façon de dire que Dieu soit avec un tel.
Al-barakat, c'est un nom qui désigne tout bien qui s'écoule sur l'individu, qui parvient à la personne d'une façon continue, d'une façon permanente et renouvelée. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه شكرا السلام على فلان donc السلام علينا que le salut nous accompagne donc que Dieu soit avec nous وعلى عباد الله الصالحين et qu'il soit aussi avec les personnes ses serviteurs vertueux أشهد أن لا إله إلا الله je témoigne deux fois qu'on a traduit plusieurs fois je témoigne qu'il n'y a que Dieu le seul Dieu est le créateur de la terre, le pourvoyeur des créatures. Et je témoigne que celui parmi toutes choses a droit d'être adoré. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bien sûr aussi, il faut prendre en compte, quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, que Dieu possède le nom et l'attribut parfait. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بجتمان كمحمد صلى الله عليه وسلم في رسالة تغذيه كي يسمى الخفات il y a d'autres invocations autres que cette formule qui sont aussi répertoriées, qui sont aussi regroupées dans le livre d'origine. ويصل بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Après avoir prononcé cette formule, qui est donc la formule proprement dite du Tashahhud, il doit lire la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce qu'on appelle الصلاه الابراهيميه فالفورمول اي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد comment traduire cette expression certains disent paix et bénédiction pour le prophète ou bénédiction et salut pour le prophète mais à bien examiner ces deux traductions on peut constater que la bénédiction étant l'appel de la protection de Dieu sur quelqu'un, ceci ne correspond pas au sens arabe originel. Car salli ala fulan veut dire prier pour. Salli ala akhika en langue arabe veut dire prier pour ton frère. Mais certains peuvent se dire qu'il y a ici une ambiguïté qui apparaît, qui surgit, car Dieu prie-t-il? On sait que c'est l'individu qui prie, qui demande à Dieu. Donc Dieu n'a pas à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'a pas prié. Mais cette ambiguïté qui surgit en français se trouve aussi, existe aussi en langue arabe, mais elle est levée par la parole d'Abu al-Aliya, un des élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه la prière de Dieu pour son prophète et le fait qu'il nous mérite et fasse son apologie et cite son nom en parlant à ses anges de la même façon dans le verset هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور celui qui prie pour vous ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Dieu prie-t-il aussi pour nous? Oui, quand tu veux faire sortir ces individus des ténèbres vers la lumière, il parle de ces personnes, des croyants, à ses anges. C'est pour ça que Abu al-Ajia a dit aussi, وَصَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ طَلَبُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Donc les anges demandent à Dieu de faire sortir les croyants des ténèbres vers la lumière, et Dieu parle à ses anges et leur dit qu'il veut faire sortir ses croyants vers la lumière. Il veut les faire sortir des ténèbres vers la lumière. L'ambiguïté est donc levée par la parole d'Abu al-Amiya. Pourquoi donc ne pas traduire Allahumma salli ala Muhammad par oh Dieu, prie pour Muhammad? Et l'ambiguïté éventuelle, l'ambiguïté éventuelle qui serait soulevée, serait effacée par la parole d'Abu al-Amiya. Conserver la traduction usuellement rencontrée, oh Dieu béni Muhammad, serait donc introduire une traduction erronée qui ne pourrait rendre le sens du verset « هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » Le traduire par « celui qui vous bénit ainsi que son ange » pour vous sortir des ténèbres à la lumière serait une traduction erronée, bien évidemment, et qui serait, elle aussi, ambiguë. Allahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكذلك محمد وآل محمد آل فلان son les proches de la personne. Donc آل محمد les proches du prophète صلى الله عليه وسلم, que ce soit ses enfants, que ce soit ses épouses et en général toute sa descendance. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. De la même façon que tu as prié pour Ibrahim et les proches d'Ibrahim. إنك حميد مجيد. حميد, c'est toi qui mérites la louange absolue, la louange suprême. مجيد, c'est toi qui possède la gloire immense, la gloire suprême, la gloire véritable. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. بارك على الشيء, ça veut dire perpétuer et multiplier les bienfaits donnés à la personne. اللهم بارك له, اللهم بارك عليه في ماله, ça veut dire Dieu perpétue son argent, perpétue ses biens et multiplie-les. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, donc au Dieu multiplie et endure ou perpétue le bien que tu as donné à Mohammed et aux proches de Mohammed, de la même façon que tu as multiplié et perpétué le bien que tu as donné à Ibrahim ou à Al Ibrahim et que tu as donné aux proches d'Ibrahim. Inna ka hamidun majid, la même chose, tu es celui qui mérite la louange absolue et tu es le détenteur de la gloire suprême, de la gloire véritable. وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Le Cheikh Al-Albani dit, on peut se contenter d'une formule résumée, d'une formule réduite, en disant اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Quel est le changement introduit par cette formule? Au lieu de répéter deux fois كما صليت على إبراهيم etc. et puis ensuite كما باركت على إبراهيم, on attache les deux formules كما صليت وباركت على إبراهيم et on dit إنك حميد مجيد, car ça on ne dit pas deux fois. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. Ensuite, au niveau de ce tashahud, après qu'il ait prononcé la forme du tashahud qui est tahiyatu lillah, etc. Et ensuite, après avoir prononcé la phrase Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, etc., il peut prononcer des invocations qu'il choisit parmi les invocations utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit quluban ala dinik, ou bien Allahumma inna a'udhuka min an-nar, Allahumma inna a'udhuka min an-nar, Allahumma inna a'udhuka min an-nar, parmi tant d'autres invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées. الركعه الثالثه والرابعه تقدم ركعه تقدم ركعه ثم ركعه دونك لا ريبيتيشن pour la troisième fois et la quatrième fois du cycle qu'on a appelé ركعه. Ceci concerne les prières qui contiennent donc plus de deux ركعه. ثم يكبر وجوبا والسنة أن يكبر وهو جالس. Ensuite il prononce le takbir obligatoirement. والسنة أن يكبر وهو جالس. La sunna est qu'il prononce le takbir alors qu'il est encore assis. Il ne s'est pas encore levé. Il dit Allahu Akbar. Ceci corrige l'erreur que font certains. Il prononce Allahu Akbar après s'être levé. Ou bien tout en se levant, il prolonge Allahu Akbar. Donc il faut prendre Allahu Akbar tout en étant assis. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَانًا Cheikh Al-Bani dit, le prieur, à ce moment-là, lève ses mains parfois. ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ رُكْنًا كَالَّتِي بَعْدَهَا Il se lève donc pour accomplir le troisième cycle, la troisième raka'a, qui est un pilier exactement de la même façon que le cycle précédent était un pilier. وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة. Le prophète exactement de la même façon cité ici lorsqu'il veut se lever pour accomplir la quatrième raka. Donc il procède de la même façon, il dit Allahu Akbar tout en étant assis, puis il se lève, il peut lever ses mains parfois, et il accomplit la quatrième raka, le quatrième cycle, de la même façon qu'il a accompli la première et la deuxième raka. Il y a quelques petites différences qui vont être citées ici. ولكنه قبل أن نهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. Cependant, si se lève, s'il passe la troisième raka à la quatrième raka, bien sûr, il va marquer la pause dont on a parlé, il va se finir. Donc, avant qu'il se lève, il va se tenir assis quelque temps, jusqu'à ce que qu'il revienne à son apaisement d'origine avant qu'il se mette en mouvement. ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. Ensuite, il se lève en s'appuyant sur ses poings pour accomplir donc la quatrième raka, le quatrième cycle, de la même façon qu'il s'est levé après avoir achevé le premier cycle, la première raka, et qu'il s'est levé pour accomplir le deuxième cycle, la deuxième raka. ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا. Il doit lire au cours de la station debout de la troisième raka et de la quatrième raka, il doit lire obligatoirement sur la fatiha. ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. Il est permis de la sunna qu'il lise parfois soit un verset, soit plus, soit une surat lors de la troisième raka, la quatrième raka, donc après la lecture de la fatiha, en station debout, parfois bien sûr ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas toujours. القنوت للنازلة ومحله. القنوت dans la langue arabe est un mot qui désigne plusieurs sens selon le contexte. Il peut désigner la station debout, des fois pour désigner la station debout on dit القنوت. Il peut désigner comme ici une invocation spéciale qui se fait à un endroit particulier de la prière. Donc le premier c'est le nazila, c'est un événement majeur qui survient. Généralement c'est un malheur qui atteint par exemple la nation. Donc sur la zone dit en titre, elle commente le nazila, l'invocation faite à l'occasion à suite d'un événement majeur, l'endroit où doit être effectuée cette invocation lors de la prière.
ويسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين بنازلة نزلت بهم. Il est de la sunna de prononcer une invocation, d'invoquer Dieu pour les musulmans, de prier pour les musulmans à l'occasion d'un événement majeur qui survient. ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد. À quel endroit doit cette invocation être prononcée? Elle doit être prononcée quand la personne se lève. Se relève du recours dans ses inclinaisons juste après avoir dit Rabbana lakal hamd. Donc, juste quand il se relève du recours et après avoir dit Rabbana lakal hamd, donc il stabilise en position debout, il prononce ce dua. Et de quel recours s'agit-il? Il s'agit du recours de la dernière raka, du dernier cycle. وليس له دعاء راتب وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة. Il n'y a pas d'invocation spécifique, d'invocation propre à dire lorsqu'on prononce le qunut, qui est donc l'invocation, le qunut ou nazila, qui est l'invocation que l'on prononce à la suite d'un événement majeur, mais la personne doit prononcer les invocations, les paroles qui conviennent à l'événement lui-même, donc c'est à lui-même destiné les paroles qui conviennent. La personne lève ses mains en prononçant ce dua. Bien sûr, la façon de lever les mains est différente du lever des mains dont on a parlé tout au long de la prière. Il s'agit de lever les mains vers le ciel et de les laisser lever, et non pas les lever en faisant un mouvement de va-et-vient, en levant les mains jusqu'à hauteur des épaules ou jusqu'à hauteur des oreilles, puis en les rabaissant. Non, ici il s'agit de laisser les mains levées quand on prononce l'invocation. وَيَجْهَرُ بِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا. Il doit prononcer ce dua à haute voix, et s'il est imam, si c'est lui qui conduit la prière. Ceux qui prient derrière lui lèvent les mains, mais ne prononcent rien, bien sûr. Mais par contre, que doivent faire ceux qui prient derrière lui? À chaque fois qu'ils prononcent une invocation, une expression qui correspond à une invocation particulière, les gens qui prient derrière l'imam disent Amin, c'est-à-dire que Dieu exauce cette invocation. فإذا فرغ كبر وسجد. Dès qu'il achève l'invocation, toute l'invocation, il prononce Allahu Akbar, puis il se prosterne. Pour accomplir bien sûr la prosternation de la façon qui a été décrite auparavant. قنوت الذكر ومحله وصيغته. الذكر, on a dit aussi auparavant, il s'agit de la prière non obligatoire qui est priée au cours de la nuit. Il est appelé vitre parce que vitre veut dire impair, et le nombre des cycles, le nombre des raka'at est impair. Il est de la sunna aussi de prononcer un dua, une invocation spéciale quand on prie le vitre. Donc à la dernière raka'at, la dernière que certains appellent vitre justement spécifiquement, on prononce une invocation que l'on va voir. Donc, qunut al-witr, Cheikh Al-Bani dit en titre, qunut al-witr, l'invocation spécifique à la prière du witr, wa mahalluhu, et l'endroit où doit être prononcée cette invocation, wa siratuhu, et sa formule. Wa amma al-qunut al-witri fa yushra'u ahyanan. Quant au dua qui est prononcé au cours de la prière du witr, il est de la sunna de le prononcer parfois. ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة. Quant à cette invocation, elle doit être prononcée avant le recours, donc avant qu'on s'incline, avant l'inclinaison. Donc, en se partant debout, à la fin de la lecture, dès que la personne achève la lecture du witr, elle lève donc ses mains et lit cette invocation, prononce cette invocation qui est ويدعو فيه بما يأتي donc prenant sur la forme suivante اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجى منك إلا إليك.
Ce qui veut dire Allahumma hdini fiman hadayt, ô Dieu, compte-moi parmi ceux que tu as guidés, donc guide-moi, wa afini fiman afayt, et compte-moi parmi ceux que tu protèges des maux, donc protège-moi moi-même d'être atteint par ces maux, wa tawallani fiman tawallayt, et compte-moi parmi ceux que tu as élus, wa barik li fima a'tayt, et multiplie les biens que tu me donnes et fais qu'ils soient durables. وقني شر ما قضيت إطعمو الادفيرسيتي donc إطعمو الادفيرسيتي des choses que tu décides فإنك تقضي ولا يقضى عليك c'est toi qui décides et personne ne décide pour toi وإنه لا يذل من واليت ceux de qui tu fais tes élus personne ne peut les avilir ولا يعز من عاديت quant à ceux dont tu fais tes ennemis rien ne peut leur donner un quelconque honneur. Tabarakta Rabbana wa ta'alayt. Ô Dieu notre Seigneur, c'est toi la source de la perpétuation et de la pérennité, et c'est toi le parfaitement élevé. Wa la manja minka illa ilayk. Personne ne peut s'échapper de toi, personne ne peut t'échapper. Si ce n'est en fuyant vers toi. Que veut dire cette phrase? Elle veut dire que ceux qui ont peur du châtiment de Dieu, comme les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien comme ceux par exemple qui sont musulmans mais qui ont commis des entorses à ce que se coordonne Dieu, ils ne peuvent se protéger du châtiment qui les attend qu'en fuyant vers Dieu lui-même. Donc avec le repentir. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. Ce دعاء le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même l'a appris aux compagnons, à ses compagnons, donc il n'est pas permis d'ajouter quoi que ce soit. Parmi les formules que la personne peut juger bonne à prononcer, donc il n'est pas permis d'ajouter quoi que ce soit à ce dua, à part Salat Ibrahimiya, donc la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été vue juste auparavant et dont on a traduit l'essence, sens, qui est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, jusqu'à la fin du dua. إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم pourquoi on doit ajouter الصلاة إبراهيمية فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم car il est prouvé, il est rapporté authentiquement que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم l'ajoutaient. Or les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ne prononcent rien en général, ne prononcent rien de ce genre sans avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le prononcer, ils n'accomplissent rien généralement de ce genre sans qu'ils aient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accomplir ceci. ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم. Ensuite, après avoir achevé la prononciation de cette invocation, il s'incline donc pour accomplir le recours. Et ensuite il se rétablit en position debout, puis ensuite il se prosterne et il accomplit les deux prosternations de la façon exacte vu auparavant. التشهد الأخير والتورك, la prononciation du témoignage de foi à la fin de la prière. التورك, c'est la façon de s'asseoir afin de prononcer ce dernier témoignage. Qui se différencie de deux façons vues auparavant, l'iftirash
et un iqa'a. Bien sûr, Tashahhud akhir concerne les prières qui comportent plus de deux raka'a. Car on a vu que les prières qui comportent deux raka'a seulement, comme la prière de l'aube, il n'y avait qu'un seul Tashahhud, après lequel le prieur achève sa prière en faisant le salam, en saluant à droite et à gauche. Ainsi que l'on va voir. Donc il s'agit ici de prières qui comportent 3 raka'at ou 4 raka'at. C'est au cours de ces prières, lorsqu'on prend le témoignage de foi de la fin, que l'on s'assoit de la façon tawarruk, que l'on va voir. ثم يقعد للتشهد الأخير وقلاهما واجب